Nous avons vu comment la foi, qui est la base de tout, qui est, comme dit saint Paul, notre bouclier, grâce auquel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du mauvais, Éphésiens 6, 16. Nous avons vu comment nous devions l'approfondir, la vivre dans les profondeurs. Nous allons achever cette méditation sur la foi. Je reviens sur cette image du bouclier. Il y a des traits enflammés que le démon nous envoie, soit directement, soit à travers d'autres personnes, notamment des paroles mensongères ou des paroles destructrices. Et notre premier réflexe, si nous ne voulons pas nous laisser emporter par cette puissance du mal, ça doit être de prendre ce bouclier de la foi, c'est-à-dire de réveiller en nous la foi. La foi qui est toujours donc première dans le combat spirituel. Nous avons vu que cette foi, elle nous protège effectivement des tentations et des pièges du malin, dans la mesure où elle est une foi, j'ai envie de dire une foi d'amour, au sens qu'elle est une véritable remise de nous-mêmes et de notre vie entre les mains de Dieu. J'ai été heureux de retrouver dans le catéchisme cette expression « Par la foi, l'homme s'en remet tout entier librement à Dieu. » C'est pourquoi le croyant cherche à connaître et à faire la volonté de Dieu. On perçoit très clairement ici que la foi, ce n'est pas simplement faire confiance que Dieu va nous aider dans ce que l'on voudrait réaliser, mais que c'est plus profondément une remise de soi à Dieu. Et c'est cette remise de soi à Dieu qui est victorieuse dans le combat spirituel, parce qu'elle nous unit au Christ dans la remise qu'il a faite de lui-même sur la croix, et par laquelle il a obtenu la victoire sur le péché, victoire radicale, c'est-à-dire qui va jusqu'à la racine du péché, qui est essentiellement désir d'autonomie, refus de dépendre de Dieu, et donc désobéissance. Mais puisque le péché originel a si profondément marqué notre humanité et qu'il, on peut dire que cette tentation du doute et de la volonté d'autonomie exerce une pression constante sur nous, on peut dire que la vraie foi sera toujours une mort à nous-mêmes, une mort à notre autosuffisance, qui ne sera jamais donc quelque chose qui va de soi. Je vous avais cité Benoît XVI, je vous le récite encore, commentant la rébellion. La rébellion du peuple hébreu dans le désert, c'est dans le livre de l'Exode, chapitre 17. Le peuple exige de Dieu qu'il aille à la rencontre de ses attentes et de ses exigences. Plutôt que de s'abandonner avec confiance entre ses mains, et dans l'épreuve, il perd confiance en lui. Combien de fois cela arrive-t-il également dans notre vie? Dans combien de circonstances, au lieu de nous conformer docilement à la volonté divine, nous voudrions que Dieu réalise nos desseins et exauce chacune de nos attentes. Dans combien d'occasions notre foi manifeste-t-elle sa fragilité, notre confiance sa faiblesse, notre religiosité sa contamination par des éléments magiques et purement terrestres. Mais vous voyez, vouloir que Dieu réalise nos desseins, croire qu'il va nous aider à réaliser nos desseins, ça peut être des desseins pour Dieu. C'est-à-dire que même sur le terrain des actions que nous posons pour Dieu, pour servir Dieu, nous sommes contaminés par cet esprit d'indépendance, de volonté propre, qui fait qu'en réalité, il y a toujours combat. En méditant la parabole du semeur, il m'est revenu l'expression de Jésus à propos de la semence qui tombe, vous savez, dans la terre où il y a peu de profondeur. D'autres sont tombés dans les endroits rocheux où ils n'avaient pas beaucoup de terre et aussitôt ils ont levé parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés et faute de racines se sont desséchés. Donc ce sont les personnes, dit Jésus, qui accueillent la parole sur le moment, ils l'accueillent avec joie, aussitôt, et ce sont des personnes qui n'ont pas de racines en eux-mêmes. Dans saint Matthieu, Jésus dit: il est l'homme d'un moment, survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, aussitôt il succombe. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le fait de ne pas avoir de racines en soi-même? La racine de notre vie, c'est notre cœur. Et donc si la personne n'a pas de racines en elle-même, c'est qu'elle ne vit pas au niveau du cœur. Et c'est précisément ça, la foi faible, comme dit Benoît XVI. Combien de fois notre foi manifeste sa fragilité, notre confiance, sa faiblesse. C'est-à-dire, elle n'est pas descendue dans le cœur profond, dans le cœur d'enfant, dans un cœur d'enfant qui fait une confiance aveugle à son père, qui s'en remet à la conduite de son père. Et donc, en fait, ce n'est pas une foi d'amour. Et au moment de l'épreuve, on succombe. C'est bien ce que dit Benoît XVI au début du passage que je vous ai cité. Le peuple exige de Dieu qu'il aille à la rencontre de ses attentes. Et dans l'épreuve, il perd confiance en lui. Parce qu'il n'a pas de racines. On perd la foi, on succombe, on perd la foi qu'on pensait avoir, mais en fait, on n'était pas dans la vraie foi. Évidemment, les choses ne sont pas tout noires ou tout blancs. Notre foi, elle est mélangée, on peut avoir une foi du cœur, mais mélangée quand même à des attachements, à nous-mêmes. On ne va pas jusqu'au bout de l'abandon. Et à ce moment-là, les épreuves permettent de purifier la foi. Qui fait qu'on ne succombe pas, mais on vit une purification douloureuse, parce qu'on est amené dans l'épreuve à lâcher des choses auxquelles on ne pensait pas être attaché. Mais on vérifie dans l'épreuve qu'il y a tout un chemin à faire pour parvenir à une véritable docilité à Dieu. Vous voyez, je pense que dans la vie apostolique, on peut très facilement s'aveugler soi-même, parce qu'on fait des choses pour Dieu, donc on s'imagine qu'on les fait donc dans un esprit d'obéissance parce qu'on veut servir Dieu alors que ce sont deux choses différentes. On veut faire pour Dieu, mais c'est encore notre vouloir propre. Et je pense que dans la vie apostolique, c'est les personnes qui finissent par, je dirais, lâcher cet apostolat. Je pense à des prêtres qui, à un moment, arrêtent leur ministère. Mais c'est souvent quand même par rapport à des projets apostoliques qui n'arrivent pas à terme. Et ils ne supportent pas l'échec. Et comment pourrait-on supporter l'échec si on ne vit pas la foi plus en profondeur, de telle manière à pouvoir donner sens à l'échec? Et au lieu de perdre confiance en Dieu, au contraire, de pouvoir, à travers l'échec, grandir dans la foi. En vous parlant là, je me souviens du témoignage d'un homme qui était très engagé dans l'Église et qui s'est retrouvé pendant 12 ans dans un camp. Il était dans un pays de l'Est. Je ne sais plus si c'était la Hongrie ou un autre pays. Et je me souviens qu'à la fin de son témoignage, il avait dit qu'au fond, il remerciait les communistes parce qu'ils lui avaient permis de grandir dans la foi. En lui donnant l'occasion donc, de lâcher entièrement tout dessein sur sa vie. Trouvons un bon exemple aussi de cette purification au niveau de la foi à travers le témoignage du cardinal Van Thuan, que Benoît XVI a mis en lumière dans son encyclique sur l'espérance. Pensons aussi que dans la mesure où nous laissons, ça se fait évidemment à notre insu, mais dans la mesure où nous restons, disons, dans une foi contaminée par la volonté propre, une foi qui ne va pas jusqu'à cette remise tout entière de nous-mêmes libre à Dieu, eh bien nous donnons prise à l'influence du malin. Il faut bien en être conscient. Le malin qui, comme dit le prince des ténèbres, qui, comme dit saint Paul, poursuit son œuvre dans les fils de la révolte. Donc, nous n'avons pas le bouclier suffisant pour éviter qu'il nous inspire secrètement dans les décisions que nous pouvons prendre. On n'est pas vraiment en état de discerner spirituellement les choses tant qu'on n'est pas allé jusqu'au bout d'une remise de notre vouloir faire pour Dieu entre les mains de Dieu. Dans cette foi qui manque de racines, cette foi qui n'est pas la foi du petit enfant, dans cette attente que nous avons que Dieu, nous donne la force et que Dieu aussi, agisse dans notre vie, il y a souvent une vision qui n'est pas non plus suffisamment purifiée du pouvoir de Dieu. Benoît XVI fait beaucoup pour purifier notre vision de la puissance de Dieu. Il en parle souvent. Il en a parlé la première fois, à ma connaissance, à Cologne, lors des JMJ. Je vous rappelle ce qu'il a dit lors de la veillée des jeunes. Le pouvoir de Dieu est différent du pouvoir des puissants de ce monde. Le mode d'agir de Dieu est différent de ce que nous imaginons et de ce que nous voudrions lui imposer à lui aussi. Dans ce monde, Dieu n'entre pas en concurrence avec les formes terrestres du pouvoir, il n'a pas de division à opposer à d'autres divisions. Au pouvoir tapageux et pompeux de ce monde, il oppose le pouvoir sans défense de l'amour, qui, sur la croix, et ensuite continuellement au cours de l'histoire, succombe, et qui cependant constitue la réalité nouvelle divine, qui s'oppose ensuite à l'injustice et instaure le règne de Dieu. Dieu est différent. Et cette différence entre le pouvoir de Dieu et le pouvoir des hommes, on peut la comprendre intellectuellement, mais on a sans cesse besoin de la, je dirais, de nous en pénétrer, de telle manière à ne pas attendre de Dieu qu'il passe par d'autres chemins que celui qu'il a choisi pour sauver le monde, ce pouvoir sans défense de l'amour sur la croix. Là aussi, on peut dire que ça n'ira jamais de soi, de rentrer dans cette acceptation d'un pouvoir qui prend d'abord la forme d'un amour sans défense. Lors des JMJ, après avoir montré que ce pouvoir de Dieu est différent, Benoît XVI, le lendemain, lors de la messe, a décrit ce pouvoir de Dieu différent des hommes, de celui des hommes, en termes de fission nucléaire. Je vous rappelle ces paroles. Pour reprendre une image qui nous est familière, il s'agit d'une fission nucléaire. Quelle est cette fission nucléaire ? C'est que la crucifixion, c'est-à-dire ce qui de l'extérieur est une violence brutale, la crucifixion, devient de l'intérieur l'acte d'un amour qui se donne totalement. Et donc cet acte-là, Benoît XVI le compare à une fission nucléaire portée au plus intime de l'être. La victoire de l'amour sur la haine, la victoire de l'amour sur la mort. Seule l'explosion intime du bien qui vainc le mal peut alors engendrer la chaîne des transformations qui peu à peu changeront le monde. Tous les autres changements demeurent superficiels et ne sauvent pas. Autrement dit, le pouvoir de Dieu est différent de celui que nous attendrions spontanément de lui, parce que c'est le pouvoir de cet acte d'amour que Jésus a posé au plus intime de son cœur, en s'abandonnant totalement au Père sur la croix par amour pour nous. Et à partir de là, il y a, comme dit Benoît XVI, une chaîne de transformation. Et c'est là aussi où notre foi a besoin de s'exercer. C'est là où on retrouve aussi, voyez les images du grain de Sénévé. qui est tout petit, qui semble une réalité tout à fait dérisoire par rapport aux forces qui sont dans le monde. C'est là où la foi doit aussi donc se faire confiance aveugle en cet acte intime qui se réalise, comme dit Benoît XVI, donc dans l'intime de l'être, c'est-à-dire dans le cœur de l'homme, et qui a la puissance de tout transformer de l'intérieur. Alors, nous comprenons ici que la foi, elle peut soulever les montagnes. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et elle laisse passer la puissance de Dieu dans la mesure où précisément nous acceptons de rejoindre le Christ dans cet acte d'abandon, de remise de lui-même, qui est la manière dont il nous a aimés en offrant au Père ce sacrifice de l'obéissance jusqu'à la croix, pour nous. L'homme s'en remet tout entier librement à Dieu. Nous avons besoin de croire en cet acte d'abandon, la puissance de cet acte de remise de lui-même que le Christ a fait pour pouvoir, je dirais, croire à la foi, à la puissance de la foi. C'est-à-dire, je pose dans mon cœur un acte de remise de moi-même, confiant au Père, face à une situation où j'accepte de voir mon impuissance humaine, où j'arrête d'attendre de Dieu qu'il agisse magiquement pour tout transformer comme ça. Je vois que de fait, il ne répond pas tout de suite comme je voudrais à mes prières, que de fait, les personnes ne changent pas comme je voudrais, que les situations ne changent pas comme je voudrais. Et au lieu de me laisser aller au découragement, je vais plus loin dans la foi. C'est-à-dire, je vis ma foi à la profondeur du mystère du salut. Qui fait qu'au lieu de dire à Dieu ce qu'il doit faire, je renonce moi-même à tout ce que j'aurais voulu faire pour entrer dans cette remise entière de moi-même à sa volonté. Donc, Dieu a le pouvoir de transformer le monde en profondeur parce qu'il a le pouvoir, par l'acte d'amour que le Christ a posé, il a le pouvoir de convertir nos cœurs. Il nous demande, c'est cet amour qui libère du péché, c'est cet amour qui est plus fort que la désobéissance du péché, et il nous demande d'entrer dans cette logique. De penser que notre première coopération à son œuvre, ce n'est pas ce que nous pouvons faire pour lui, mais c'est la profondeur de notre foi, vécue à travers les épreuves. En vous disant ça, je repense encore une fois à la vie de Jean-Paul II, la manière dont il s'est laissé conduire dans une remise de lui-même de plus en plus profonde, en acceptant de lâcher de plus en plus l'action pour Dieu. Et il est passé d'une foi où il avait une grande confiance en Dieu, il allait de l'avant, il posait beaucoup d'actions, je dirais, inspirées et généreuses, avec beaucoup de courage, Il y avait aussi sûrement beaucoup d'abandon de lui-même, hein, et d'écoute de Dieu, mais il est passé à une profondeur plus grande dans la remise de lui-même. Et cette profondeur plus grande a eu plus de poids que toutes ses paroles et toutes les actions qu'il avait pu poser avant quand il était sportif de Dieu. Donc on peut en faire beaucoup moins et en faire plus. C'est ça où on croit en la foi ou on n'y croit pas. Et croire à la foi, c'est croire à la confiance que Jésus a vécu pour nous et dans laquelle il nous entraîne. Et laisser aussi donc cette explosion atomique qui s'opère au plus intime de l'être, la laisser opérer cette chaîne de transformation en sachant attendre le moment où cette victoire qui commence dans notre cœur pourra se manifester. Actuellement, vous voyez, il y a toute une tendance proprement moderne qui, surtout depuis Auschwitz, qui tend à présenter Dieu comme en réalité impuissant face au mal. Le catéchisme n'évite pas cette question. Il dit au numéro 272: parfois Dieu peut sembler absent et incapable d'empêcher le mal. Jean-Paul II n'avait pas eu peur de prononcer le terme d'impuissance. Mais une impuissance, il faut le dire, apparente. Le catéchisme précise tout de suite: or Dieu le Père a révélé sa toute-puissance de la façon la plus mystérieuse dans l'abaissement volontaire, dans la résurrection de son Fils, par lesquels il a vaincu le mal. Ainsi, le Christ crucifié est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. On a du mal à tenir à la fois la toute-puissance de Dieu dans l'histoire, qui tient comme maître de l'univers, qui tient toutes choses dans sa main, et en même temps l'infini respect de Dieu pour notre liberté. Mais je pense que c'est précisément en contemplant la manière dont cette toute-puissance s'est révélée sur la croix, cette manière la plus mystérieuse, comme dit le catéchisme, on comprend que cet amour sans défense face au mal est en même temps la force la plus grande pour transformer effectivement le monde. Et qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de finalement, aussi comme pour disculper Dieu, de dire qu'au fond il ne peut rien et que tout ça c'est la liberté humaine. Non, Dieu a réellement sauvé le monde et son amour est réellement victorieux du monde par la croix. Donc nous n'aurons jamais trop confiance en la toute-puissance de cet amour divin, même quand, et j'ai envie de dire surtout quand, cet amour semble être mis en échec. Disant ça, évidemment, je pense au temps où nous vivons. Jésus est comme crucifié à nouveau, par l'apostasie silencieuse de tant de personnes marquées par la grâce du baptême. S'il est crucifié à nouveau, ça veut dire aussi que crucifié aussi dans les membres de son corps, de tous ceux qui portent ce drame de la non-foi, de l'athéisme, de l'incroyance, qui le portent dans leur cœur, qui posent des actes de confiance totale en sa miséricorde, et qui coopèrent donc par leur foi, en portant les choses dans la foi, qui coopèrent à cette œuvre de résurrection que le Seigneur est en train de préparer pour son Église. Donc ne nous laissons jamais aller à penser que finalement, c'est la liberté humaine qui s'exerce, que Dieu la respecte et qui ne peut rien. Non, Dieu peut convertir même les cœurs les plus endurcis. Il a le pouvoir de convertir l'homme pécheur, mais il nous demande de coopérer à cette œuvre de rédemption en vivant tous ces échecs, notamment apostoliques, en vivant dans la foi. Le catéchisme de l'Église catholique, qui décrit donc la foi comme une remise de nous-mêmes tout entière à Dieu, va jusqu'à dire que cette foi se glorifie de ses faiblesses, afin d'attirer sur elle la puissance du Christ. Il reprend des expressions de saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, en Philippiens 4, 13. Mais en même temps, il change l'expression. Saint Paul dit qu'il se glorifie de ses faiblesses afin que repousse sur lui la puissance du Christ. Et le catéchisme dit « la foi se glorifie de ses faiblesses ». Donc, autrement dit, c'est dans la mesure où nous avons vraiment cette foi, cette vraie foi, que je viens d'essayer de décrire, que nous pouvons nous glorifier même de nos faiblesses. Là, ce sont des expressions qui sont tellement belles qu'on est conquis. En les entendant, je me glorifierai surtout de mes faiblesses afin que repose sur moi la puissance du Christ. C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comment ne pas aimer ce langage? Mais avant de pouvoir le vivre, c'est un très long chemin. Je dirais ça, c'est le sommet de la foi. La foi qui se glorifie de ses faiblesses. Ça dépend d'abord, comme je l'ai dit, de la profondeur de notre contemplation du mystère de la croix. Comprendre que Jésus a été faible sur la croix. Comme dit saint Paul, il a été crucifié en raison de sa faiblesse. Mais il est vivant par la puissance de Dieu. Et nous, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu. De Corinthiens 13, 4. Donc, il a été crucifié en raison de sa faiblesse, de telle manière que nous puissions vivre nos faiblesses en lui. Mais pour vivre nos faiblesses dans Christ, c'est-à-dire pour qu'elles soient la matière d'une remise plus profonde de nous-mêmes à Dieu, pensez à la faiblesse physique de Jean-Paul II, mais il n'y a pas que la faiblesse physique. Il y a la faiblesse psychique. Il y a toutes sortes d'infirmités secrètes que nous portons, de limites. Et la première chose pour que nous puissions les vivre en lui, dans Christ, c'est de pouvoir les reconnaître et de commencer le chemin de l'acceptation, c'est-à-dire aussi de faire le travail de deuil par rapport à tout ce que nous aurions aimé pouvoir faire pour Dieu et pour les autres, que cette faiblesse nous empêche de faire. Parce que j'ai remarqué que dans notre vie spirituelle, nous pouvons évidemment viser tout de suite le sommet en disant, voilà, j'offre à Dieu mon état, mais en fait, on l'offre sans l'avoir d'abord vraiment accepté. L'acceptation de notre état, l'acceptation de notre puissance humaine à cause de ces faiblesses qui nous marquent dans notre vie physique et psychique, et même la faiblesse de notre esprit lui-même, c'est un long chemin. Et c'est le chemin de la foi. C'est la foi qui se glorifie. Donc c'est le chemin, encore une fois, dans lequel nous contemplons Jésus crucifié et progressivement nous assimilons la logique de la croix. Mais il ne faut pas penser pour voir simplement parce qu'on a de belles lumières, de belles inspirations, parce qu'on est touché par ce langage, il ne faut pas penser qu'on va être capable de le vivre pour autant comme ça. Saint Paul lui-même, il a par 3 fois demandé à Dieu de le libérer de l'écharpe dans sa chair. Ce n'est qu'à travers tout un chemin qu'il a pu dire ensuite, oui, de fait, je me complais dans les faiblesses. Je me permets de rajouter à un niveau pratique, vous voyez que si on commence simplement à regarder sa faiblesse, par rapport à certaines situations, par rapport à par rapport à des personnes que l'on aimerait pouvoir aider, par rapport à un service comme celui de la catéchèse ou des services ou des choses nous tiennent à cœur. Si on reste simplement à regarder sa faiblesse, en fait, on risque de se regarder soi-même, simplement. Et à ce moment-là, on est comme Saint-Pierre, hein, qui commence à couler parce qu'il regarde le vent, il voit la tempête, au lieu de garder les yeux fixés sur Jésus. Moi, c'est la puissance qui se déploie dans la faiblesse. Ça suppose que nous restions dans un regard de foi, tourné vers, non pas nous-mêmes, vers notre faiblesse, mais tourné vers Jésus, pour qu'il nous prenne dans sa confiance aveugle, que nous nous laissions touché par son abandon, nous puissions aimer notre faiblesse en aimant la sienne. Nous avons, quand nous participons à la messe, nous avons le sacrifice de Jésus qui est renouvelé à travers des signes très humbles, celui du pain, du vin, de Jésus qui se livre entre nos mains. Nous avons un Dieu faible qui nous donne à chaque Eucharistie la possibilité d'unir notre faiblesse à la sienne. Un Dieu qui se fait pauvre, qui se fait petit. Et en même temps, nous avons cette foi que c'est dans cette pauvreté, cette faiblesse de Dieu que le monde a été sauvé. Donc c'est Jésus qui nous conduit et il ne faut pas, je dirais, prendre là-dessus nos désirs pour la réalité. L'offrande totale, l'acceptation totale, c'est un chemin de suite du Christ qui est le chemin de notre vie. Cette foi qui se glorifie de ses faiblesses, on peut dire qu'elle constitue, vous voyez, la victoire radicale sur la tentation originelle. En effet, dans cette acceptation de notre faiblesse, une acceptation du cœur, de notre faiblesse, qui fait que réellement nous arrivons à aimer même cette faiblesse, nous avons la victoire complète sur la tentation originelle, comme désir d'autonomie. C'est-à-dire que dans cette acceptation aimante de notre faiblesse, nous avons en même temps l'acceptation d'une dépendance totale au Père. Et donc, dans ce chemin de la confiance qui s'éprouve, qui s'approfondit dans la faiblesse, nous sommes victorieux de toute cette contamination que le démon a opérée dans le cœur de l'homme comme désir d'autonomie, comme besoin de trouver en soi la force pour agir, de pouvoir s'appuyer sur soi. Cette victoire radicale dans notre cœur, donc elle doit s'opérer à travers bien des épreuves qui nous amènent à lâcher cet appui sur nous-mêmes, qui est peut-être de plus en plus subtil, quasi imperceptible. Et si nous n'avions pas les épreuves dans notre vie, nous ne ferions pas ce chemin. Parce que c'est tellement, tentant que de garder en soi-même, un minimum de sécurité et d'assurance que l'on croit pouvoir ainsi posséder. Saint Paul décrit bien les choses quand il dit « J'ai été formé à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu. Je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. Être assasié, avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris cela de toutes les façons. J'ai appris, vous voyez, j'ai appris dans ma vie à dépendre de plus en plus de Dieu. J'ai appris cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Voilà la foi parvenue à sa maturité. À travers un apprentissage. C'est notre Père du ciel qui nous éduque par son Fils Jésus qui a ouvert ce chemin. Et qui nous apprend, pour reprendre l'expression de Saint Jean de la Croix, à marcher sans appui et pourtant appuyé. Que nous travaillions d'abord, voyez, à vivre ce combat de la foi, que nous pensions que c'est le plus grand service que nous pouvons rendre à Dieu, bien plus que donc, nos actions concrètes elles-mêmes. Ne nous empêche pas évidemment de faire notre possible pour nous procurer ce dont nous avons besoin. L'Ecclésiastique dit confie-toi dans le Seigneur et tiens-toi à ta besogne. C'est pas aide-toi et le ciel t'aidera, mais c'est confie-toi dans le Seigneur, la foi est première, et tiens-toi à ta besogne. C'est-à-dire fais ce qui dépend de toi. Mais dans le confie-toi dans le Seigneur, c'est pas simplement aie confiance que Dieu va t'aider pour tes besoins. Non, c'est plus que ça. C'est confie-toi, c'est remets-toi entièrement dans les mains de Dieu. Profite même des plus petites difficultés pour remettre ta vie entièrement dans les mains de Dieu. Pense même que tu pourrais mourir ce soir et que tu n'as que ce temps pour lui montrer ta confiance. Donc profite de tout pour mener le combat de la foi. Donc confie-toi dans le Seigneur, ça veut dire au fond cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord à suivre le Christ dans son chemin de remise de lui-même. Suivre par la foi. C'est-à-dire à la fois en le contemplant, en ayant foi en lui, en sa victoire, et en même temps en le suivant dans sa confiance au Père. Et tiens-toi à ta besogne, donc fais ce qui est de l'ordre de tes capacités, de ce que Dieu te laisse comme capacité, ce qui relève de ton devoir d'État. Mais voyez, dans une telle attitude, il n'y a pas de place pour un vouloir faire des grandes choses pour Dieu. Il n'y a pas de place pour des grands projets comme ça qui ne seraient pas... qui serait le fruit de notre volonté encore à faire des choses pour Dieu, pour les autres, sans qu'il y ait de nécessité, sans qu'il y ait que les choses soient faites vraiment dans l'obéissance. mais plutôt sous l'ordre d'une générosité humaine qui nous fait désirer, par exemple, parler à telle personne pour l'aider à se convertir, ou alors essayer de convaincre telle personne qui est en train de faire de mauvais choix dans sa vie. Voyez, par rapport à ce qui ne relève pas purement et simplement de notre devoir d'État, nous devons être extrêmement réservés, enfin je dirais plutôt nous devons être méfiants vis-à-vis de nos grands élans, notamment apostoliques. La sagesse, c'est de rester petit, de nous tenir le plus possible loin de ce qui brille, confie-toi dans le Seigneur, tiens-toi à ta besogne, à ce que tu dois vraiment faire, en conscience, selon les circonstances de la vie qui t'imposent les choses. Et pour le reste, laisse Dieu faire et laisse Dieu te conduire. Au sens où si nous restons fidèles à cette logique, c'est-à-dire une logique dans laquelle on prétend rien pouvoir faire, et donc on ne se fait pas des projets puisqu'on prétend rien pouvoir faire. Et si on reste dans cette logique, au moment où Dieu le voudra, il nous donnera dans notre faiblesse, moyennant cette foi vraie dans la remise de notre vie entre ses mains, il nous donnera la force et la lumière dans notre faiblesse. À ce moment-là, sa puissance pourra se déployer dans notre faiblesse. Mais voyez, tant qu'on garde un vouloir faire pour Dieu qui n'a pas été purifié par la foi, il n'y a pas de place pour la puissance divine. Pas de place pour l'Esprit Saint. Et c'est dans ces moments-là qu'en fait on s'use pour rien, on se fatigue pour rien. Et on finit évidemment par penser que le Seigneur ne nous a pas aidés comme on aurait espéré, mais en fait, le Seigneur, il ne peut pas rentrer là où règne la volonté propre. Nous pouvons tout particulièrement, vous voyez, confier ce chemin à la Vierge Marie, comme y invite d'ailleurs le catéchisme, en disant que de cette foi, la Vierge Marie est le suprême modèle, elle qui a cru que rien n'est impossible à Dieu. En voyant comment Marie a su vivre ce chemin de foi jusqu'au pied de la croix, en restant toujours dans son fiat, en laissant ce fiat se creuser. Je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole. Et que c'est en allant jusqu'à, je dirais, jusqu'à une communion la communion la plus intime à l'offrande de son Fils sur la croix, qu'elle est devenue notre mère, c'est à ce moment-là que Jésus lui a dit « Mère, voici ton Fils ». Donc elle est le modèle de cette fécondité de la foi qui fait communier à l'œuvre de la rédemption. Et vous voyez, cette foi que Marie a vécue au pied de la croix, et par laquelle elle est vraiment parvenue à cette maternité, devenir mère de l'Église, mère des hommes, elle a été précédée par toute une vie dans laquelle elle s'est confiée au Seigneur en se tenant à sa besogne, humblement, à Nazareth. Elle a pu dire en toute vérité le psaume 130, « Je ne poursuis ni... Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. » Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un petit enfant contre sa mère.